Je vais intervenir donc rapidement sur ce début d'après-midi, mais je voudrais juste réagir par rapport à une intervention de ce matin et apporter quelques éléments de compréhension. Il a été abordé la question du temps de travail, et donc c'est pourquoi je vous ai projeté la diapo derrière, qui est issue de la recherche sur la souffrance au travail des enseignants et qui a débouché donc sur la publication La souffrance des enseignants, une sociologie pragmatique du travail enseignant. Et donc dans ce travail, pour essayer de comprendre, enfin dans cet ouvrage, dans cette recherche, pour essayer de comprendre comment se construit cette souffrance ou, dans le travail. C'est une enquête qualitative, mais Françoise Lantôme, donc Christophe Hellou, ont essayé de formaliser le travail, j'allais dire le travail enseignant, comme un autre travail. C'est-à-dire que ils se sont appuyés sur ce qui se fait en dehors de l'éducation nationale et dans l'industrie, par exemple, ils ont essayé de caractériser ces différents temps de travail. Avec un temps contrôlé et obligatoire. Alors, il y a une partie du travail qui est un travail contrôlé et obligatoire. C'est le travail qui est contraint, et ça renvoie au travail contraint posté de tout travailleur, qui renvoie aux heures de cours, au service, qu'on appelle le service, et aux réunions obligatoires qui sont inscrites dans l'emploi du temps de l'enseignant. Donc ça, c'est un temps contraint qui se fait dans l'établissement. Il y a aussi une part du travail contraint. Alors, c'est marqué libre, hein, j'ai juste utilisé donc le tableau de qui était publié. Le travail contraint libre qui peut se faire dans l'établissement ou hors l'établissement, et qui renvoie à toute la partie de préparation du cours et aux corrections de copies, par exemple. Mais il y a, ça, ce sont juste des illustrations. On peut mettre d'autres choses derrière. C'est du travail contraint, parce que l'enseignant est obligé de le faire, mais effectivement, en France, et là, j'ouvre une parenthèse pour préciser que, en France, le temps de présence dans l'établissement n'est pas une obligation sur la semaine, mais par exemple en Espagne, vous avez un temps de présence dans l'établissement, un temps de présence sur la semaine des enseignants, et les enseignants ont d'autres missions que celles d'enseigner. Ils ont des missions administratives, des tâches administratives, etc. Voilà. Je ferme ma parenthèse et je repars sur la deuxième ligne du tableau, travail non contrôlé et non obligatoire. Le travail contraint périphérique, c'est un travail de concertation, donc ça renvoie au travail collectif dont on a parlé déjà ce matin, les dispositifs qui sont mis en place dans les établissements. Il n'y a pas d'obligation particulière à le faire, mais ça existe. Et puis il y a aussi tout le travail logistique, le travail administratif. Alors logistique, c'est tout ce qui renvoie donc à l'organisation du matériel, etc. Selon les disciplines, c'est plus ou moins conséquent. Et ensuite, il y a une dernière part du travail qui est libre, qui se fait en dehors, enfin qui n'est pas contrôlé, qui se fait en dehors de l'établissement. C'est tout ce qui est relatif à la formation personnelle et professionnelle. C'est-à-dire que dans les entretiens, les enseignants souvent ont exprimé. Alors c'est une enquête qui ne s'est pas déroulée auprès d'enseignants de LP spécifiquement, mais de collège et de lycée. Tout le temps de lecture ou de visite, de musée ou d'appropriation de ressources qui demandent une traduction pour servir de support à l'enseignement. Donc ça, c'est toute une part invisible du travail de l'enseignant, mais qui souvent prend une part importante dans le temps libre. Et une des conclusions de la recherche sur la souffrance, c'est que le temps contraint libre, le temps libre, le temps contraint périphérique, les enseignants ont l'impression que ces tâches-là envahissent la sphère professionnelle Et il y a souffrance au travail quand le temps de travail, le travail envahit. Il y a une porosité entre la sphère privée et la sphère professionnelle, et que l'enseignant a l'impression que le travail envahit sa vie. Voilà, c'était juste une présentation rapide parce que le sujet avait été évoqué ce matin et je voudrais compléter. Donc je voulais apporter cette donnée-là et je voulais aussi préciser, je vais le remettre, qu'en ce moment on mène une recherche sur la façon dont les enseignants font pour durer dans le métier face aux conditions pour prendre la retraite, le nombre d'annuités qui évolue, le travail enseignant qui évolue avec de plus en plus de missions, de tâches qui sont différentes, le public scolaire qui évolue, les injonctions qui évoluent, la société qui évolue. Et on se rend compte que les enseignants, après 50 ans, 55, 60, lorsqu'on fait des entretiens, il nous explique, oui, on travaille, mais maintenant, j'ai appris à organiser mon temps de travail. Pendant les vacances, je travaille, mais je travaille de telle heure à telle heure. Ou pendant le week-end, je travaille, mais je travaille de telle heure à telle heure. Ce qui fait que j'ai un temps de travail et après, je fais autre chose. Alors, on voit qu'il y a des mécanismes quand même qui sont intéressants à les étudier. Et effectivement, ce sont des enseignants épanouis dans leur travail. Voilà. Alors, il n'y a pas que ça, mais la recherche est en cours. Donc, c'était juste pour faire un complément d'information. Et je vais essayer de mettre mon diaporama et pas celui de Dominique Vassal. Parce que j'aurai des difficultés à le présenter. Alors, juste un... Je vais essayer de me restreindre à 5-10 minutes. L'idée, c'était de vous présenter les collectifs de travail. Quand on parle de collectifs de travail, de quoi parle-t-on? Et aussi, en quoi les collectifs de travail peuvent être des ressources pour le développement professionnel? Alors, évolution contemporaine du travail, je vais passer la diapo parce qu'on en a déjà beaucoup parlé ce matin. Et je vais faire mon intervention différemment. Peut-être que ça sera un peu moins... Ça sera peut-être pas tout à fait digeste, mais bon, c'est pas grave. Alors, simplement, la notion de collectif de travail, elle vient de la clinique de l'activité, elle vient des ergonomes et qui analysent donc le travail et définissent le terme de collectif de travail comme un lieu où se construisent les règles de métier, un lieu où sont partagées les manières de faire et qui permettent de construire du transpersonnel. Alors là, je vais un peu vite, mais je vais essayer d'être un peu plus clair. Alors, Claude, il a travaillé auprès de personnes qui travaillent dans le bâtiment. Il a travaillé auprès des conducteurs de TGV et il s'est intéressé au travail des enseignants aussi. Et donc, il a essayé d'utiliser cet outil d'analyse et transféré donc du monde de l'ergonomie ordinaire vers le monde de l'enseignement. Et là, je vais faire le lien, je vais essayer d'éclairer avec les exemples qui ont été évoqués ce matin. L'idée, ce qui a émergé des questions et des réactions de ce matin, c'est que on se rend compte que effectivement, les enseignants, ils ont besoin de travailler ensemble pour construire des règles du métier qui soient partagées et pour que les élèves de LP et le même discours d'un enseignant à l'autre, ils sachent ce qui est attendu d'eux. Alors, un collectif de travail, c'est le lieu où se crée la controverse professionnelle, c'est le lieu où se crée le débat professionnel, et alors ce qui est en gras, où se construit le transpersonnel, c'est-à-dire que, du coup, le métier se construit, mais il y a des règles qui sont partagées par plusieurs. Et ce que c'est ce que Claude explique, nomme, pardon, le genre social du métier. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont partagées, il y a des obligations qui sont partagées par les professionnels pour arriver à travailler ensemble. On tombe d'accord, on se met d'accord sur des choses que l'on va faire, chacun peut-être dans son cours, mais aussi qui peuvent être communes lorsqu'il y a une co-intervention. Et en somme, on se met d'accord sur les règles du bon travail. Voilà, c'est ce qui constitue le genre du métier. Mais comme tout professionnel, les enseignants, ils acquièrent ce genre du métier, mais après, ils le mettent entre guillemets, à leur sauce, et on parle alors de style du métier. C'est-à-dire que selon que l'on arrive, que l'on entre dans le métier par une reconversion professionnelle, effectivement, on aura un style différent des néo-enseignants qui rentrent dans le métier tout de suite après leurs années de fac. Voilà. Alors, quelques éléments qui contribuent, qui font que... qui dynamise le collectif de travail. Alors, on en a parlé ce matin. Alors, j'avais préparé une diapo, je vous la soumets, mais je vais m'appuyer sur un échange qui a eu lieu ce matin et qui parlait de la dimension donc locale du travail. Hop. Voilà. Alors, je vais vous demander d'aller voir. Ça c'est une recherche que j'ai fait auprès des professeurs de PS, mais l'idée c'est que j'ai cherché à comprendre les composantes du collectif pour voir ce qui faisait pour comprendre la dynamique de ces collectifs de travail. Et il y a une caractéristique qui est liée à la dimension restreinte et élargie. Alors, il y a marqué collectif restreint et collectif élargi. Alors, il faut l'envisager sur un continuum. Là, je l'ai mis en versus l'un de l'autre, mais l'idée, c'est qu'il y a un continuum de l'un à l'autre. Et les collectifs restreints, ils se caractérisent par des échanges qui se font sur l'organisationnel, sur l'administratif. Ce matin, on a évoqué les collectifs qui se réunissent pour mettre en place le CCF et un échange de pratiques sur la note qui sert à guider l'élève ou la note qui tombe à la fin. Alors, dans le collectif restreint, il échange sur quand est-ce que je note, sur ce que j'ai mis et sur la dimension organisationnelle. À l'inverse, de l'autre côté du continuum, on a des collectifs, ce que j'ai appelé un collectif élargi, où on parle, où on débat de des situations qu'on met en place avec les élèves. Alors, je vais reprendre l'exemple du CCF de ce matin, c'est-à-dire lorsque je note, qu'est-ce que je prends en compte, comment se déroule mon CCF, qu'est-ce que je prends en compte, et on va débattre de ces façons de faire pour envisager de les partager. Voilà, donc vous l'avez compris, une des dimensions qui dynamise le collectif de travail, c'est que c'est un collectif élargi, c'est-à-dire que l'on ne débat pas que de l'administratif, mais on va sur le champ de la situation de travail, sur la controverse professionnelle. Ensuite, une caractéristique de la composition des collectifs qui sont dynamiques, c'est la composition, c'est le profil des enseignants qui composent ces collectifs. On se rend compte que les approches du métier qui sont différentes, donc on en a parlé ce matin, lorsque des enseignants qui ont une expérience du métier, une conception du métier, qui pensent le métier de façon différente, débattent sur une situation professionnelle, on se rend compte que effectivement c'est dynamisant pour le collectif et en termes de développement professionnel, c'est beaucoup plus intéressant parce que du coup, on remet le métier, on retravaille le métier. Alors, c'est ce que j'ai appelé une composition hétérogène, c'est-à-dire des néo-enseignants qui sortent de la, qui débutent dans le métier, qui ont 5 ans d'expérience. Des hybrides qui questionnent le travail et qui sont à la fois enseignants, formateurs et qui se posent des questions sur le métier. Et puis des enseignants qui sont porteurs d'expérience, mais pour qui ces changements, c'est difficile et qu'ils vivent ces changements, ces nouvelles prescriptions, ces nouveaux CCF, comme quelque chose de supplémentaire et qui rajoute encore du travail au travail. Voilà, donc donc l'idée, c'est qu'une composition hétérogène des collectifs est plus favorable à dynamiser le collectif. Alors, lorsque le... Donc, d'un côté, on voit des collectifs élargis, avec une composition hétérogène, on a un collectif de travail qui est dynamique et qui est donc propice au développement professionnel. De l'autre... ce ne sont pas des collectifs éteints, ce sont des collectifs qui permettent le travail. C'est des collectifs pour travailler, mais qui contribuent moins au développement professionnel. Juste une donnée qui est issue de la recherche sur les PPCP. Il y a des éléments, et ces éléments ont été évoqués aussi ce matin, qui sont propices à développer le collectif de travail. Donc là, j'ai nommé l'importance du local, c'est-à-dire lorsqu'il y a des dispositifs au niveau de l'établissement qui permettent aux enseignants de se retrouver pour débattre du métier, notamment dans l'emploi du temps, un horaire qui est réservé à cet effet. Alors là, c'était pour les PPCP, mais pour d'autres prescriptions, c'est valable aussi. Il y a un temps qui est dégagé dans l'emploi du temps. Donc là, ça rejoint la question de l'organisation du travail des enseignants. Lorsque dans l'emploi du temps, il y a un temps qui est réservé, mais qui est aussi accompagné avec des objectifs pour certaines réunions, c'est-à-dire qu'il y a un suivi de l'avancée des PPCP, c'est un élément qui contribue à dynamiser le collectif de travail. Et d'autre part... Là, je fais vite pour laisser la parole à Dominique. Les logiques de fonctionnement des établissements. Dans l'enquête que nous avons menée, il y avait des établissements qui avaient une organisation segmentée par filière, organisée en tuyaux d'orgue, si vous voulez. Au nom de l'autonomie des filières, il y avait des organisations très segmentées. Dans un autre établissement, c'était deux LP tertiaires, je précise, une dynamique qui permettait donc le passage, donc les échanges d'une filière à l'autre. Et donc là, on est sur l'organisation générale, mais il y avait aussi une forme de management qui était incitateur, enfin une forme qui était incitatrice, qui accompagnait et qui rendait visible à la réalisation. Alors là, c'était des PPCP qui aboutissaient sur des productions, mais qui rendaient visible donc ces PPCP, mais aussi qui donnait à voir, qui était sur une logique marchande, qui montrait le résultat des élèves, etc., les projets qui étaient faits, et qui communiquait à l'extérieur sur cette dimension-là. Donc ça, ce sont des caractéristiques du local qui sont plus propices au développement des collectifs de travail. Voilà, donc en résumé, qui caractérise donc un collectif de travail, c'est le lieu de controverses professionnelles et de sources de développement professionnel. Mais, alors, là, c'est parce que à l'occasion de cette formation, ça m'est donné de l'envisager. Il y a des collectifs de travail dans l'établissement, donc ce dont je viens de vous parler, mais il y a collectifs de travail qui questionnent donc la professionnalité des enseignants en dehors de l'établissement, par exemple des groupes de formateurs, d'enseignants qui se retrouvent pour travailler sur un sujet. Voilà.